Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je m'attaque à un gros morceau. Tellement gros qu'il me faudra deux épisodes pour vous raconter cette histoire, et même trois. L'affaire Émile Louis, l'un des plus grands tueurs en série français. Il a tué au moins sept jeunes filles handicapées mentales, celles qu'on avait appelées à l'époque avant sa condamnation, les disparues de Lyon. Voici donc le premier épisode, vous trouverez ensuite le second, et dans un troisième temps, le troisième épisode, qui sera un point de vue décalé sur ce drame, celui de sa fille Marilyn, qui raconte ce que c'était que d'être la fille d'Émile Louis. J'écris ce premier épisode avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous préviens, le début de cette histoire est désolant. Et plus de 40 ans après, ça reste une tache dans notre histoire. Une grosse tache bien dégueulasse. Un moment de honte nationale. À la fin des années 70, entre 1977 et 1979 précisément, des gens, des branleurs, des gens foutres, des gros nazes, responsables d'un institut médico-éducatif d'Auxerre, voient disparaître une par une des jeunes filles handicapées mentales dont ils ont la charge. Eh bien, ils ne bougent pas le petit doigt. Des gamines dont pourtant ils sont censés s'occuper, qu'ils sont censés protéger. Hé, Robert, il y a la petite Marlowe qui s'est pas présentée aujourd'hui. Ah bon? Eh ben, écoute, t'as qu'à écrire qu'elle est en fugue sur sa fiche, puis voilà tout. Salut. Dis, on a pas de nouvelles, la petite Chantal Gras, là. Ah bon? Ben, t'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue, et puis voilà tout. Salut, chef. Dis donc, il y a Madeleine de Juste qui s'est pas présentée ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue. Et puis voilà tout. Et voilà. Fermez le banc. C'était des gogoles, ces gamines. Et qui plus est, des enfants de la DAS. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à se demander ce qu'elles sont devenues? Elles ont fugué. Voilà tout. Fugué? Vous êtes sûr? À ce stade de l'histoire, on compte quatre disparus. Christine Marlowe avait 15 ans, Chantal Gras 18, Madeleine de Juste avait 21 ans et Bernadette Lemoine 19. Toutes les quatre ont le même profil. Elles sont handicapées mentales. Elles ont été abandonnées par leur famille ou retirées à leur famille par un juge pour enfants. Elles étaient toutes hébergées en famille d'accueil et elles passaient toute leur journée à l'IME avant de rentrer le soir à la maison. On venait les chercher en quart et on les ramenait en quart tous les jours. Et elles auraient fugué? Pourquoi? Comment? Fugué où? Personne ne se pose la question. Personne ne les cherche. Ni la direction de l'Institut médico-éducatif Gratterie d'Auxerre, ni les services de la DAS de Lyon. Les seuls qui s'inquiètent de leur disparition, ce sont les familles d'accueil. L'une d'elles publie même un avis de recherche dans le journal local, Lyon Républicaine. Si quelqu'un la retient, il est prié de lui laisser écrire une lettre de sa propre main pour que l'on sache qu'elle est toujours en vie. L'appel reste sans réponse. Et les années passent. En 1984, 7 ans plus tard, le procureur ordonne bien une enquête préliminaire qu'il confie aux gendarmes. Et les gendarmes concluent dans un rapport que oui, ces soi-disant fugues ont un point commun. Ces gamines ont disparu entre le centre et leur famille d'accueil. Toutes. Les gendarmes écrivent qu'il y a sans doute quelque chose à gratter de ce côté-là, dans ce trajet entre le domicile et l'institut. Mais le procureur, un jean-foutre lui aussi, classe le dossier sans suite. Circulez, il n'y a rien à voir. Ce sont des gogoles, je vous dis. Des gogoles. Et les années passent encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Christine, Chantal, Bernadette et Madeleine sont tombées dans l'oubli. Personne ne se souvient d'elles, ni d'ailleurs de leur nom, ni de leur prénom, ni de la date à laquelle elles ont disparu. Et ça dure comme ça jusqu'en 1994. 16 ans après, enfin, un homme sauve l'honneur. Il était temps. Il s'appelle Pierre Monnoir. Il n'a aucun rapport avec les gamines disparues, aucun. Il a juste un frère handicapé, ce qui lui donne une sensibilité sur le sujet. Et il a entendu parler de ces gamines handicapées mentales volatilisées. Mais à part ça, il ne sait rien, ni leur nom, ni quand elles ont disparu. Alors il va voir le directeur de l'IME, l'Institut médico-éducatif en question. Pas le même Jean Foudre qu'à l'époque, hein, un nouveau, qui manifestement n'est au courant de rien. Vous n'avez pas entendu parler de ces personnes disparues? Ben non. Ça date de quand? J'en sais rien. D'après ce que j'ai entendu, ça date des années 70, la fin des années 70. Ben non. Honnêtement, je suis pas au courant. Vous devriez fouiller dans les archives. Il y a un truc pas net sur ces disparitions. Et le directeur fouille dans ses archives et il tombe de sa chaise.
Monsieur Monnoir, c'est le directeur de l'IME Gratry, là, à l'appareil. Dites-moi, je me suis plongé dans les archives, comme je vous l'avais promis. Vous aviez raison, hein. Il y a effectivement eu 4 disparitions coup sur coup en 1977 qui sont demeurées inexpliquées, hein.
Ah, je savais bien. Vous pouvez me donner des noms et les dates?
Pas de souci, monsieur Monnoir. Je vous envoie ça tout de suite.
En attendant, Pierre Monnoir a créé une association de défense des handicapés de Lyon. Et dès qu'il reçoit les noms, il se lance, avec d'autres, dans un travail de fourmi. Il s'agit de retrouver les familles des disparus. Les parents, quand elles en avaient, ou alors un frère, une sœur, souvent placés aussi à la DAS. Moi, j'ai jamais su qu'elle était placée, ma sœur. Je savais pas non plus qu'elle avait disparu. Comment que vous voulez que je le sache? Et comme ça, petit à petit, Pierre Monnoir parvient à mobiliser les 4 familles des 4 jeunes filles disparues fin 77. Il s'agit de porter plainte en tant que partie civile. Et Monnoir a trouvé un avocat, vieux briscard du barreau de Paris, qui carbure au whisky dès le petit déjeuner, mais qui est un retors comme il faut, Maître Gonzalez de Gaspard.
Je veux bien vous aider, mais c'est pas gagné, hein, je préfère vous le dire. Tant d'années après, il va falloir se battre pour obtenir l'ouverture d'une instruction.
Il a raison, Gonzalez de Gaspard. C'est pas joué. Alors, pour secouer la justice, Monnoir décide de se tourner vers la presse. Mais les journalistes locaux de Lyon ne croient pas vraiment à son histoire. Qu'importe. Début 1995, il va voir l'équipe de l'émission « Perdu de vue » de Jacques Pradel sur TF1. Et il tombe sur un putain de journaliste à qui cette histoire doit beaucoup. Stéphane Minca. Écoutez, monsieur Monnoir, je vous promets d'aller voir sur place, hein, de mener une enquête. Et je vous tiens au courant. Et il va sur place, à Auxerre. Et il découvre d'abord que ces gamines qui avaient 15, 18, 19 et 21 ans était bien incapable de fuguer. Elle avait 7 ans d'âge mental, Christine. Comment voulez-vous qu'elle ait fugué? Elle aurait même pas eu l'idée, enfin, 7 ans d'âge mental. Et les autres, pareil. Et il retrouve aussi la sœur de Madeleine de Juste, disparue en 1977, à l'âge de 21 ans.
Oh, ben, j'ai passé des annonces dans le journal, à l'époque, pour savoir où c'est qu'elle était passée, Madeleine. La DAS, on m'a dit qu'elle était majeure et qu'elle avait le droit de partir où qu'elle voulait. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle avait été enlevée, quoi. Hein, qu'elle était prisonnière quelque part.
Et Stéphane Minca s'entend dire aussi que la dernière fois qu'on a vu Madeleine vivante, elle allait prendre le car pour aller à l'IME. Le car. Souvenez-vous de ça. Le journaliste de Perdu de vue rencontre aussi la nourrice de Chantal Gras.
Oh, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, que le soir où elle a disparu, elle venait de rentrer à la maison. Elle a posé son cartable, je me souviens. Et puis, elle est ressortie se promener, comme elle faisait souvent. Et ben, ce jour-là, je ne l'ai jamais revue.
Et après, Stéphane Minca va voir la mère biologique de la même Chantal Gras.
Oh, ben, quand elle a disparu, ça m'a pas trop étonné, parce que... Figurez-vous qu'un jour, le chauffeur du car qui les amenait tous les jours à l'IME, il m'a dit, vous verrez un jour votre fille, quand elle aura 18 ans, elle partira. Il m'a dit ça. Chauffeur de car. C'est pour ça, j'étais pas trop étonné.
Il vous a dit ça? Mais c'est qui ce chauffeur de car?
Émile. Émile Louis qui s'appelle. Ben, c'est lui qui amène les gosses des familles d'accueil où qu'elles vivent. Jusqu'à leur école, jusqu'à l'IME.
Décidément, il y a un problème avec le car scolaire dans cette affaire. Un problème avec son chauffeur, cet Émile Louis, là. Stéphane Mincard appelle alors les gendarmes d'Auxerre.
Dites-moi, je m'intéresse à un certain Émile Louis, qui est un chauffeur de car des Rapides de Bourgogne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose?
Ah oui, oui, oui. Oui, ça me dit quelque chose. C'est un gars qui a été condamné pour pédophilie, Émile Louis.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, vous aviez conduit une enquête à la demande du procureur de la République sur les disparus de l'IME d'Auxerre. Dans vos souvenirs, est-ce que le nom d'Émile Louis figurait dans le dossier?
Oula, c'est vieux tout ça. Mais oui, 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 je crois bien.
Ce dossier d'enquête préliminaire, là, vous l'avez toujours?
Ah ben oui, oui, bien sûr.
Vous accepteriez de me le lire?
Maintenant?
Oui, maintenant.
Et le gendarme lit le dossier à Stéphane Mincard de perdu de vue, au téléphone, pendant 1h30. Et il tombe de l'arbre, parce que Pierre Monnoir lui avait donné 4 noms de disparus. Mais en vérité, il y en a 7. Le gendarme lui en donne 3 de plus.
Alors, on a aussi Martine Renaud, 16 ans. Qui a disparu à l'époque à peu près dans les mêmes conditions. Et puis Jacqueline Weiss, W-E-I-S, qui avait 18 ans. Et enfin Françoise Lemoine, 27 ans. C'est la sœur d'une autre disparue, Bernadette Lemoine.
Cette gamine handicapée mentale disparue dans les mêmes conditions, dans la même indifférence. Et qui toutes faisaient le trajet domicile-école dans le même car scolaire, conduit par le même chauffeur, Émile Louis. Son nom est dans le dossier depuis le début. Il a fait du bon boulot, Stéphane Mincard. Du très bon boulot. Jacques Pradel a maintenant la matière pour ouvrir le dossier des disparus de Lyon dans son émission de TF1.
Un petit peu solennellement ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée ici à Perdu de Vue, de confirmer en tout cas la réalité d'un certain nombre de ces disparitions.
Et Pierre Monnoir est là, sur le plateau. Et Pradel égrène le nom des disparus. Et Monnoir découvre en direct qu'il n'y en a pas 4, mais 7. En tout cas, ça y est, l'affaire est sortie de l'oubli, enfin. Presque 20 ans après. On a beaucoup critiqué à l'époque l'émission de Pradel perdue de vue. Mais elle a été très utile dans beaucoup d'enquêtes, dont celle-là. Donc, tout était dans le dossier des gendarmes depuis le début. Dans cette affaire, c'est le procureur qui a merdé, pas les gendarmes. Et il est temps que je vous donne le nom de celui à qui cette affaire doit tout. Le gendarme Jambert, Christian Jambert. C'est lui qui a conduit l'enquête préliminaire de 1984. C'est lui qui, dans son rapport au procureur, a pointé un problème avec le chauffeur de car. C'est lui que le procureur a choisi de ne pas écouter. Dans ce dossier, le gendarme Christian Jambert sauve l'honneur. Et ce qui l'a amené à s'intéresser avec passion à ce dossier, contre les institutions, c'est un événement qui date de juillet 1981. À cette époque-là, au Rouvray, au sud d'Auxerre, un agriculteur trouve un cadavre dans sa grange sous un tas de fumier. Et il appelle bien sûr les gendarmes. Et Jambert prend le dossier en main. Le corps
a les pieds et les poings liés. La bouche est bâillonnée avec un slip. Le corps est probablement là depuis très longtemps. Son état de décomposition empêche toute identification. Le seul indice sont des vêtements féminins qui laissent penser qu'il s'agit d'une femme. Et Jambert apprend peu de temps après qu'une jeune fille de la DAS, Sylviane Lesage, a disparu. Alors il compare le dossier dentaire de cette Sylviane à celui du cadavre. C'est elle, la morte. Et en poussant son enquête, il apprend que la gamine avait comme nourrice une certaine Madame Binoche. Et que cette Madame Binoche a pour compagnon un homme qui s'appelle Émile Louis et qui est chauffeur de car. C'est lui qui, tous les jours de la semaine, conduisait Sylviane à l'IME, l'Institut médico-éducatif où elle était scolarisée. Son nom, le nom d'Émile Louis, était dans le dossier depuis 1981. Mais le gendarme Jambert a fait mieux que ça, à l'époque. Il a fait le lien avec 6 autres disparitions de gamines handicapées, celles dont je vous ai parlé, moins une qu'il ne pouvait pas connaître, puisque la disparition avait été signalée à la police. Et il découvre, en 1981, qu'Émile Louis est le point commun entre toutes ces affaires. Il avait tous les éléments, Jambert, depuis le début. Mieux que ça, dès 1981, Jambert sait qu'Émile Louis est pédophile. Il le sait par un de ses copains, qui est aussi ami avec le chauffeur de car. Ah, il m'a dit lui-même qu'il était attiré par les enfants. Il m'a dit qu'il avait des pulsions, il appelait ça la bestiole. Et je crois bien qu'il a tripoté les deux gamines de la DAS que sa femme héberge. Je lui ai dit, va voir un psychiatre, Émile, il faut y aller, tu peux pas rester comme ça, c'est grave ce que tu fais. Mais bon, il m'a pas écouté, quoi. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, Christian, faut arrêter ça. Le 28 décembre 1981, Jambert place Émile Louis en garde à vue. Dans sa tête, c'est clair. Il veut lui faire avouer les attouchements sur les deux gamines que sa femme héberge. Mais pas que. Il espère aussi le faire craquer dans le dossier du meurtre de Sylviane Lesage. Et pourquoi pas, dans le dossier de la disparition des 6 autres. Bien, monsieur Louis, j'ai des éléments qui me laissent penser que vous avez agressé sexuellement deux gamines de la DAS qui sont placées chez vous. Est-ce que j'ai tort, monsieur Louis ? Pas tout à fait, non. Ouais, je les ai un peu caressés, quoi. Enfin, touchés, quoi. C'est des pulsions, je peux pas résister. J'ai aussi des éléments, monsieur Louis, qui me laissent penser que vous pourriez être mêlé au meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Sylviane Lesage. Et mieux que ça, monsieur Louis, j'ai des raisons de penser que vous pourriez être aussi impliqué dans la disparition de 6 jeunes handicapés mentaux que vous conduisiez tous les jours il y a quelques années à l'IME d'Auxerre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ?
Rien. J'y suis pour rien, moi, tout ça. Pourquoi j'aurais fait ça ?
Mais vous les connaissiez, ces filles ?
Oui. Je les ai transportés dans mon car. Mais c'est tout.
Il est retors, le Mimine. À la fin de sa garde à vue, Émile Louis est mis en examen pour les attouchements et pour le meurtre de Sylviane Lesage. Mais l'année d'après, Émile Louis n'est condamné que pour les attouchements. 4 ans de prison. Il en fera 3. Dans l'affaire Lesage, faute de preuves, il fait l'objet d'un non-lieu. Mais Christian Jambert ne lâche pas. Il veut faire tomber Émile Louis dans le dossier des 6 disparus. Et pour ça, il doit retrouver les cadavres. Alors il fait fouiller les mares, les étangs, les rivières. Rien. Son enquête dure 3 ans. Et en 1984, il rend son fameux rapport de 7 pages au procureur. Tout y est, tout. C'est écrit noir sur blanc et Milouy est présenté en filigrane dans tous ses dossiers. Et à la fin de son rapport, il écrit « Faut-il élargir le périmètre de votre instruction aux autres disparitions ?» Réponse du procureur et du juge d'instruction, sous la forme d'un coup de tampon à poser sur ce rapport. Non ! Les nazes ! Les nazes ! Au moment où le juge donne son coup de tampon, Émile-Louis a purgé sa peine pour les attouchements. Et il sort de prison. Et comme pour lui ça sent le roussi, il quitte Lyon et va s'installer au soleil à Draguignan dans le Var, où il récidive dans le tripotage. En novembre 1989, il est condamné à 5 ans de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur mineur. Sur les 5, il en fait 3 et il est libéré en 1992. Et ma foi, il reste au soleil, à Draguignan, pépouze. Alors que pendant ce temps-là, à Auxerre, Pierre Monnoir, qui ne sait rien de tout ça, tente d'exhumer le dossier des gamines disparues. Pitoyable tout ça. Pitoyable. Et je vous rassure, hein, les deux zigomars qui ont enterré le dossier, là, le juge et le procureur d'Auxerre, ne seront pas sanctionnés. Dans l'univers de la justice, la règle, c'est l'impunité. C'est pas joli joli, mais c'est comme ça. Et donc, nous voilà en 1996. Et Émile Louis coule une paisible retraite au soleil. Mais il ne perd rien pour attendre. L'avocat Gonzalez de Gaspar est à la manœuvre. Les 4 familles des disparus viennent de se constituer partie civile. Elles ont porté plainte, mais pas pour meurtre, puisqu'il n'y a pas de cadavre. Porter plainte pour meurtre, ça serait risquer de voir le dossier enterré à nouveau. Gonzalez de Gaspar, ce vieux renard, a trouvé la parade. Il porte plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire, faisant semblant de croire que les gamines seraient encore vivantes. Mais vous n'allez pas le croire. Le juge d'instruction d'Auxerre, qui est désigné pour instruire le dossier, refuse de recevoir les familles. Et pire que ça, 4 mois plus tard, il enterre à nouveau le dossier. Trop ancien. Ah, y a des coups de pied au cul qui se perdent, hein. Les familles font appel. Et ouf, la justice sauve les meubles, prière de reprendre l'instruction. Ça chauffe pour toi, Mimille. Ça chauffe pour toi. Malheureusement, à ce moment-là, le dossier perd l'un de ses héros. Le gendarme Christian Jambert se suicide avec une 22 long rive. C'est terrible. Il venait de prendre sa retraite, il était dépressif. Est-ce que c'est lié à l'affaire? On n'en sait rien. Il est toujours assez vain de donner du sens à un suicide. Certains vont jusqu'à envisager qu'il a été assassiné, parce qu'il en savait trop. Alors on exhume son cadavre. Et effectivement, c'est étrange, à l'autopsie, on découvre qu'il y a 2 impacts de balles dans sa boîte crânienne. On se suicide assez rarement de 2 balles. Mais bon, l'enquête conclut que c'est vraiment un suicide. Et conséquence, ben, on pourra pas compter sur lui pour la suite. Mais là où il est, qu'il se rassure. Grâce à lui, la machine judiciaire est lancée et cette fois, elle ne s'arrêtera pas. Merci, Christian Jambert. Merci. C'est le juge Lewandowski qui est chargé d'instruire le dossier des disparus de Lyon. Tant d'années après, c'est pas gagné. D'abord, il a perdu son témoin à clé, Jambert. Et par ailleurs, on a aussi égaré le rapport d'enquête préliminaire de Jambert en 1984. Et donc, il faut tout reprendre à zéro. Il désigne 2 gendarmes pour travailler à plein temps sur le dossier.
Tenter de retrouver les filles qui étaient avec les disparus, à l'IME en 1979. Elles sauront peut-être quelque chose. Hein.
Sauf qu'elles étaient handicapées mentales, et que ça n'a pas changé. Elles sont incapables de répondre aux questions. Les gendarmes explorent ensuite la piste d'un réseau de prostitution. Est-ce que ces filles ne sont pas séquestrées quelque part? À Paris, au Moyen-Orient ou en Amérique latine? Ça ne donne rien. Alors bien sûr, on en revient à Émile Louis. Les gendarmes qui mènent l'enquête 19 ans après se convainquent à leur tour qu'il est le centre de toutes les disparitions. Avec toujours le même problème déjà pointé par Jambert, on n'a pas de cadavre. Et sans cadavre, difficile de l'accuser de meurtre. Alors, on fouille dans la région d'Auxerre, du Rouvray, de Villefargeau. Je pense que vous devriez chercher là où Émile avait ses habitudes. Je sais qu'il allait souvent pêcher au bord du Serein. Et puis il avait son potager aussi. Et je crois bien qu'il avait encore une cabane dans la forêt. On retourne la terre du potager, les abords de la cabane. On fouille la rivière où il pêchait. Rien. Et puis les gendarmes tombent sur un témoin. Oh, c'était en 1981, je crois bien. J'ai vu de mes yeux. Émile creusait un trou dans un champ. Un trou d'au moins, je sais pas moi, au moins un mètre sur un mètre. Et vous vous souvenez où? Oui, pas loin de son potager. Les gendarmes creusent.
Stop!
Ils viennent de tomber sur deux ossements et des semelles de chaussures. Mais ce sont des os de mouton, chou blanc. Et là, on s'aperçoit que, avant d'être chauffeur de car, Émile Louis était gardien du château de Villefargeau. Alors, là aussi on creuse, de ci, de là. Et encore chou blanc. Dans ce dossier, toujours pas de cadavre. Pendant ce temps-là, Émile Louis est toujours au soleil, à Draguignan. Il doit se douter, surtout depuis l'émission perdue de vue, qu'il est dans le collimateur. Et s'il n'a pas vu l'émission, ce qui est possible, il ne peut pas ignorer que l'enquête a été relancée, parce que les journalistes font le pied de grue désormais toute la journée devant chez lui. Parfois, il les envoie bouler, mais de temps en temps, il les reçoit dans son salon.
Je peux vous offrir un café ?
Et parfois, il leur donne une interview.
Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire aujourd'hui.
Oui. Mmh. Oui. Le sort, ça charme sur moi. Mmh. Et que je suis absolument pour rien, j'ai toujours clamé mon innocence. J'avais fait un trou, effectivement, de 50 cm de profondeur sur un mètre, pour repiquer mes endives pour l'hiver. Enfin, pour le printemps, parce qu'on mange des endives. Bon. Et c'est tout. C'est tout. Je ne comprends pas que 20 ans après, qu'on vienne me dire... On a trouvé deux os dans ce fameux jardin.
Profite de tes derniers instants de liberté, Mimile. Profites-en bien.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.